Bienvenue à chacun. Je vous propose de démarrer notre rencontre. Tout le monde a une vue jusqu'au tableau, à peu près. Alors ce soir, on va commencer avec un cantique, mais celui-ci, on va simplement le lire. Je vous propose de lire un passage dans Éphésiens, au chapitre 1. Ce sont les versets 19 à 23. Ce sera notre introduction, l'introduction au thème de ce soir, les questions de Dieu. Dieu, quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Je vous invite à prier un instant. Sinon, nous te disons merci de nous réunir ce soir. Nous nous réunissons autour de ta personne, autour de ta parole. C'est elle, notre autorité, qui nous enseigne, qui nous donne la vie. Merci Seigneur, parce que il y a tant de richesses dans ta parole qui elle-même produit la vie en nous. Je te prie Seigneur que sur ce thème de l'autorité, qui n'est pas toujours facile, que Seigneur tu nous aides à recevoir ta parole, à la mettre dans notre cœur et à la vivre, à la mettre en pratique. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu d'amour et tu parles avec autorité pour notre bien, pour notre bénédiction. Et nous te prions de nous conduire dans cette soirée. Amen.
Amen.
En fait, notre sujet est déjà traité entièrement dans le texte que nous venons de lire et qu'on peut vraiment lire comme un cantique parce que nous adorons Dieu quand nous entendons ces paroles merveilleuses. L'autorité et la puissance dans l'Église, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui est mis en avant. Et vous voyez, l'autre dimanche, on a juste utilisé puissance, pouvoir, autorité. Ici, la liste est longue. Ces mots, Dieu a équipé le Seigneur Jésus de tout cela. Il l'a élevé au-dessus de tout, en l'abaissant d'abord par sa mort à la croix, mais ensuite il l'a établi au-dessus de tout. Et c'est le Seigneur Jésus qui est maintenant à la tête de l'Église. Et c'est lui qui a dit dans Matthieu, « Je bâtirai mon Église et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. » Donc ce passage illustre nos propos déjà de dimanche. Vous voyez le verset 19, le premier. Oui, c'est ça. Vous voyez que c'est Dieu qui déploie son autorité et sa toute-puissance pour nous, les croyants. C'est ce qu'on a dit dimanche passé. Et au verset 20, on voit son énergie, sa force, sa vigueur qu'il a mise en œuvre en Christ, qui est maintenant au-dessus de tout. Vous voyez les mots principauté, souveraineté, puissance et domination. Le Seigneur Jésus est la tête de l'Église. Et tout cela, ça nous pousse à l'adoration, à la reconnaissance, et aussi, cela nous donne confiance, foi, sécurité et liberté. Voilà tous les effets de réaliser l'autorité du Seigneur Jésus sur l'Église. Voici ce que ça nous donne. Et dimanche, nous avons souligné que Jésus exprime, exerce, utilise son autorité pour notre bien éternel, à cause de son amour pour nous. Et en fait, ça m'a fait penser au cœur de l'Évangile, Jean 3, 16, car Dieu a tellement aimer le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Voilà donc le sujet, autorité et puissance dans l'Église. Comment traiter ce sujet, ou bien le traiter? Et donc après réflexion, j'ai décidé, au risque, avec le risque que ça prend, de ne développer qu'un seul aspect de notre sujet ce soir. J'aimerais en fait continuer à nous faire réfléchir sur notre rapport à l'autorité et à son exercice, mais cette fois-ci à travers des exemples bibliques. On va lire simplement quelques passages et relever ce que nous pouvons en tirer. Et aussi, dans un deuxième temps, lire quelques textes qui présentent l'exercice de l'autorité dans l'Église. D'accord ? Donc, je vous demande pardon d'avance d'avoir fait ce choix limité. Pour moi, ma démarche, c'était que si on a ça, après, on peut mieux réfléchir pratiquement comment vivre l'autorité. D'abord, si on est bien, si on a un bon rapport, c'est plus facile après de voir les choses pratiques. C'est une façon de me dérober. Et puis, on va utiliser peut-être la semaine prochaine pour échanger là-dessus. Voilà. Alors, à travers un certain nombre de passages, j'aimerais en fait donc parler de notre rapport à l'autorité. Et la première chose, c'est la distinction entre l'autorité et le pouvoir. Je ne l'ai pas faite, je ne vais pas vraiment la faire, je vais laisser les textes que nous lisons le faire par eux-mêmes. Et je vais commencer sans lire de texte, à parler un instant du Seigneur Jésus. Jésus avait le pouvoir de guérir tous les malades. Il avait tout pouvoir, c'est ce que nous avons dit dimanche. Le pouvoir de pardonner les péchés, de ressusciter les morts, de chasser les démons, parmi les choses que nous lisons dans les évangiles. Mais malgré cette démonstration, malgré l'évidence de ce pouvoir, de cette puissance de Jésus, les preuves, il avait donné des preuves que ces signes venaient de la part de Dieu, on constate qu'au travers des récits des évangiles, que les autorités religieuses, que ce soit les pharisiens ou les scribes, ils ont systématiquement contesté son autorité. Par quelle autorité fais-tu cela ? Qui t'a donné le droit de faire un miracle le jour du sabbat ? Et au lieu d'être émerveillé par la puissance de Dieu, émerveillé parce que les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, au lieu de réaliser que le royaume de Dieu s'est approché, il continue à demander des signes. Donne-nous un signe du ciel. Toute cette démonstration ne leur a pas suffi. Et quelques-uns vont même jusqu'à dire, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et leur cœur endurci, leur aveuglement va les pousser jusqu'à chercher à faire mourir Jésus, dès le début de l'évangile. Faire mourir celui qui est venu apporter la vie abondante aux siens. Donc ces hommes religieux qui s'opposaient à Jésus, c'était quand même difficile de nier la puissance de Dieu, le pouvoir que Jésus avait. Mais ils ont systématiquement refusé son autorité. Et pourtant Jésus leur avait encore dit en Jean 10, verset 38, « Mais si je fais les œuvres du Père, quand même vous ne me croiriez pas, croyez les œuvres. Sachez et comprenez ainsi que le Père est en moi, comme moi dans le Père. » Mais ces hommes ont vraiment démontré ce que c'est que l'incrédulité, le refus de croire, le refus de reconnaître l'autorité de Jésus. En fait, la Bible est remplie de contre-exemples, d'exemples comment mal exercer l'autorité. À vrai dire, depuis quelques semaines que je sais qu'on allait traiter ce sujet, j'ai trouvé que la Bible parlait de l'autorité dans toutes les pages, en tout cas dans tout ce que j'ai lu chaque jour et tout ce que des amis m'ont envoyé, partout on me parlait de la même chose. Donc c'est vraiment un thème. Maintenant, dans les semaines à venir, quand vous lisez votre Bible, vous allez voir que c'est un thème très très important, concret, pratique. Et donc je vais ce soir commencer par quelques mauvais exemples d'exercice d'autorité. Comment mal exercer l'autorité ? On les connaît bien. Hérode, celui qui a fait décapiter Jean-Baptiste. Vous vous souvenez de ce récit, pour ceux qui veulent se rafraîchir les idées, on peut le lire en Matthieu 14, les premiers versets. Et Hérode était au pouvoir en Galilée. Donc ces mauvais exemples nous donneront aussi un peu d'aide pour distinguer l'autorité et le pouvoir. Donc il était au pouvoir en Galilée, et vous vous souvenez ce que Jean-Baptiste lui avait dit, il a dit « Tu n'as pas le droit d'avoir la femme de ton frère. » Et pour cela, Hérode cherchait à le faire mourir. Mais il nous est dit, à cause de la foule, il n'a pas pu exécuter son plan. Vint ensuite cette soirée où la fille d'Hérodiade va danser et ça va lui monter à la tête, on va dire. Il va faire un serment stupide. À cause de ce serment et à cause des convives, il va devoir faire trancher la tête à Jean-Baptiste et sa tête va être amenée sur un plat à la fille de sa femme qui était celle de son frère. Enfin bref. Donc on a une situation, un récit vraiment dur, très très dur, et on voit que Hérode avait le pouvoir de faire cela. Et en fait, il avait trop de pouvoir, et il l'a mal exercé. Donc Jean-Baptiste lui dénonce son péché d'adultère, et il le fait enchaîner en prison, et il aimerait le faire mourir. Et ensuite, parce qu'il aimait aussi parler avec lui, il aurait aimé lui soutirer de l'argent, on ne sait pas très bien. Là, ce soir-là, il aurait voulu le sauver. Mais cette fois-ci, il s'était engagé par une parole, un serment, et en fait, il n'a pas su se retirer. Et il a donc failli misérablement. Un deuxième exemple, c'est Pilate, nous l'avons déjà mentionné. Il avait l'autorité par rapport à la foule, et d'ailleurs Jésus lui a rappelé d'où elle lui venait, tu n'aurais pas d'autorité si elle ne t'était donnée d'en haut. Et malgré qu'il avait compris l'innocence de Jésus, malgré qu'il voulait vraiment le relâcher, malgré le plaidoyer de sa femme qui avait rêvé, qui était tourmentée et qui avait dit « Relâche-le, fais tout ce que tu peux », ce sont les cris de la foule qui l'ont emporté. Et il a donc s'est lavé les mains publiquement. Voilà. Il a voulu contenter, satisfaire la foule. Et parce qu'on parle des Hérodes, j'en ai encore un autre qui est facile à venir à notre mémoire. En fait, il y en avait plusieurs dans le Nouveau Testament. Hérode Agrippa, ça c'est acte 12. Tout le chapitre nous montre vraiment un homme qui abuse de son pouvoir. Au début du chapitre, nous le voyons persécuter violemment les chrétiens. Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. Ensuite, on a le récit de ce qui se passe avec Pierre. Et à la fin du chapitre, on a le récit de ce qui se passe avec Hérode Agrippa. Dans les derniers versets de acte 12, nous lisons son jugement. Au jour fixé, en fait, il doit encore faire plus de mal. Hérode, ayant revêtu les habits royaux et siégeant à la tribune, se mit à haranguer les foules. Le peuple l'acclamait à grands cris, « C'est la voix d'un dieu et non d'un homme. » Mais soudain, l'ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu. Rongé par les vers, il expira. Et donc lui aussi, devant le peuple, il n'a pas utilisé le pouvoir lié à son mandat. Il n'a pas bien exercé son autorité. Qu'il avait lui aussi, c'est pas dit ici, indirectement, il ne savait pas, reçu de Dieu. En tout cas, c'est Dieu qui a décidé que ça suffisait à ce moment-là. Alors un exemple, vous allez me dire, ben, ce sont des païens. Ils ne connaissaient pas le Seigneur, etc. Mais nous sommes entourés de gouvernements qui ne connaissent pas le Seigneur. Et donc c'est une question qui nous concerne quand même. Le dernier exemple, contre-exemple, il nous parle encore bien plus, c'est le premier roi d'Israël, c'est Saül, qui se cachait d'abord parmi les bagages, lorsqu'on le cherchait pour qu'il puisse devenir roi, qui ensuite était modeste, mais qui très vite a montré des faiblesses très très graves dans son leadership. Il y aurait beaucoup à dire et beaucoup à apprendre aussi pour nous de sa vie, de ce qui nous est révélé dans l'Évangile. Mais j'aimerais simplement citer ce qui s'est passé en 1 Samuel 13. C'est en fait le début de sa chute, vraiment. En 1 Samuel 13, on est dans une période très difficile. Ce sont les Philistins qui sont en train de commencer la guerre avec Israël, de combattre Israël. Il y avait 30 000 chars, 6 000 cavaliers, une troupe aussi nombreuse que les grain de sable au bord de la mer. Ils montèrent, établirent leur camp, et voilà, les hommes d'Israël virent le danger, tant le peuple était menacé de près. Ils se cachèrent dans les grottes, les trous, les rochers, les souterrains et les citernes, et il y avait là Saül. Et c'est vrai que, quel défi pour lui. C'était le roi, il devait conduire le peuple, comment faire la guerre. Et son rôle, à ce moment-là, alors qu'ils avaient peur, c'était d'attendre le prophète Samuel. C'était important de consulter Dieu dans cette situation. Le message qu'il avait reçu de Samuel, le prophète, c'était « Attends-moi à Gilgal ». Mais vous connaissez ce récit. Le peuple, quittant Saül, commençait à se disperser. Et alors Saül a dit « Amenez-moi les animaux pour l'Holocauste, les sacrifices de paix », et il a offert l'Holocauste. Il n'avait même pas fini que Samuel est arrivé. Et malheureusement, qu'as-tu fait ? Et il se défend, et il explique. Tu n'étais pas au rendez-vous, et les Philistins étaient là. Il a eu peur. Et donc, il pense avoir obéi à Dieu en faisant ce sacrifice. Samuel dit, c'est qu'il en est tout autrement. Il a dit, si tu avais attendu, le Seigneur aurait établi ta royauté sur Israël pour toujours. Mais maintenant, elle ne tiendra pas. Et là, il annonce déjà David, le prochain roi. Et donc, on a cette histoire très triste. Et la suite de la vie de Saül continue ainsi dans sa direction, dans sa responsabilité de responsable de chef d'État, en quelque sorte. On voit beaucoup de faiblesses et beaucoup d'autorité mal exercée. Dans tout cela, dans les exemples qu'on vient de voir, il y a quelque chose, une caractéristique commune. Pour les quelques exemples qu'on vient de voir, c'est que chaque fois, la raison de ne pas avoir bien exercé l'autorité, pour Hérode, c'était à cause des convives. Ça, c'était plus important pour lui que de sauver Jean-Baptiste, alors qu'il en avait le pouvoir. Il n'a pas utilisé son autorité pour le délivrer. C'est la même chose pour Pilate. Les cris de la foule, c'était plus fort que lui. Il n'a pas su se saisir de son autorité, de son pouvoir pour faire autrement. Hérode Agrippa, lui, il était acclamé par le peuple. Il voulait, ça lui plaisait de persécuter les chrétiens pour plaire au peuple. Et ensuite, ça lui a sérieusement monté à la tête parce que quand les gens l'ont acclamé comme un dieu, Dieu lui-même dit, il ne a pas rendu gloire à Dieu. Et enfin, Saül, c'était la peur de comment je vais faire devant sa responsabilité. Je dirais les caractéristiques communes ici, c'est l'insécurité, surtout pour Saül. L'autre, c'est moins évident, mais quelque part, c'est peut-être aussi ça. La peur des hommes, et par rapport à Dieu, c'est le manque de foi. Je dirais une identité spirituelle mal établie, une méconnaissance de Dieu qui leur a confié le mandat et une incompréhension de l'autorité divine qui les a menés à l'abus, l'autoritarisme, le despotisme, bref, à une mauvaise utilisation du pouvoir qui leur a été confié. C'est dur. Encore un exemple négatif, mais qui va nous apprendre quelque chose de positif. C'est Roboam. Qui est Roboam ? C'est le fils de Salomon. C'est le fils de l'homme le plus sage de la terre à un moment donné. Et qu'a-t-il fait quand Salomon lui a confié la royauté ? Qu'a-t-il fait ? Comment a-t-il exercé l'autorité ? En fait, le peuple est venu auprès de lui et lui a demandé quelque chose. « Allège le joug pesant que ton père nous a infligé, alors nous te servirons. » Et il a répondu « Retirez-vous pour 3 jours, puis revenez vers moi. » Et le peuple se retira. Le roi Roboam prit conseil des anciens, ceux qui s'étaient tenus en présence de son père Salomon, de son vivant, et il leur dit « Quelle réponse conseillez-vous de faire à ce peuple ?» Je trouve qu'il a magnifiquement commencé. D'accord ? Il s'est donné 3 jours pour réfléchir et pour prendre conseil. Et il prend conseil auprès des anciens. Et qu'est-ce qu'ils lui répondent ? si tu te fais aujourd'hui le serviteur de ce peuple, si tu te mets à leur service, et si dans ta réponse, tu leur adresses des paroles bienveillantes, ils seront tes serviteurs pour toujours. » Qu'est-ce qu'il a fait, Roboam ? Mais il négligea le conseil que lui donnaient les anciens. Il prit conseil des jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui se tenaient en sa présence. On dirait qu'on lit une histoire d'adolescent d'aujourd'hui. On dirait que rien n'a changé. Et vous connaissez la suite. Ses copains lui ont dit « Toi, tu es beaucoup plus fort que ton père. Exerce une main de fer envers ton peuple. Tu es beaucoup plus fort que lui. » Et il a fait des comparaisons. « Mon petit doigt est plus fort que le tour de rein de mon père. » Quelque chose comme ça. Les conséquences ont été dramatiques, puisque le royaume a tout de suite été divisé. À cause de cela, en fait, il a dû fuir, il a perdu toute son autorité et son pouvoir. Je ne sais plus comment on dira, d'accord ? C'est les deux. Il était le roi, mais il a perdu son statut, pour ainsi dire. Et Jéroboam, fils de Nébat, je crois, est venu prendre les 10 tribus d'Israël. Et ce nom, Jéroboam, il fait référence dans tout ce qui suit pour montrer que c'est une unité de mal, d'accord ? Tel fit mal aux yeux de l'Éternel, comme Jéroboam, dans les livres qui suivent, 1 Samuel, 2 Samuel, 3 Chroniques, il est toujours question du Jéroboam qui est arrivé ici, et qui a donc commencé ce schisme, etc. Voilà. Et la chose positive, c'est ce conseil. J'ai toujours, moi, lu dans le contexte de cette histoire, que j'ai lu plusieurs fois, mais comme elle m'est arrivée pendant ces dernières semaines, relisons maintenant ce texte pour nous, pour notre vie, pour la façon dont nous exerçons l'autorité, ou nous sommes appelés à exercer l'autorité. Et on voit ici qu'en fait, c'est la clé de comment bien d'exercer l'autorité. C'est pas seulement un bon conseil pour Jéroboam, c'est un conseil pour tous les âges. Alors je le relis encore une fois, et vous pouvez le lire avec moi. Si tu te fais aujourd'hui le serviteur de ce peuple, si tu te mets à leur service, c'est répété, et si dans ta réponse tu leur adresses des paroles bienveillantes, ils seront tes serviteurs pour toujours. Il a eu le meilleur conseil, Jéroboam avait le meilleur conseil qu'un homme pouvait lui donner, que Dieu pouvait lui donner. Et ça, c'est écrit pour nous, aujourd'hui aussi, pour qu'on en profite. Voilà ce qui est important. Voilà, je dirais, toute personne en autorité, et plus il en a, plus il doit prendre modèle sur ce conseil. On s'approche maintenant, petit à petit, d'exemples plus positifs. Mais je vais maintenant continuer avec des exemples qui nous inspirent, pour lesquels nous sommes vraiment invités à suivre. Et l'exemple qui me parle vraiment beaucoup, d'abord, c'est au sujet de la foi, mais ce soir, c'est au sujet de l'autorité, c'est le centurion qui est venu à Jésus pour son serviteur malade. Et on va lire une partie de ce récit, c'est Matthieu 8. On va lire les versets 5 à 10. « Comme Jésus était entré à Capernaum, un centurion s'approcha de lui et il le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même, qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis, « Va, » et il va. À un autre, « Viens, » et il vient. Et à mon esclave, je dis, « Fais ceci, » et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » Et au verset 13, Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. C'est un récit merveilleux qui est cher, je pense, à notre cœur. Ça montre un exemple de foi en action. Et Jésus admire littéralement la grande foi de cet homme. Et il est devenu pour nous aussi un modèle de prière. Certainement, nous avons déjà dit cela. Seigneur, dis seulement une parole en pensant à ce qui s'est passé pour ce serviteur, pour le serviteur de ce centurion. Alors, pour moi, le centurion, c'est un très bon exemple de quelqu'un qui a compris le principe de l'autorité, l'exercer et se soumettre. J'avais préparé là toute une digression parce qu'en fait, on a quand même un souci dans notre pays, plus que partout ailleurs, avec les militaires. Le centurion, c'est un soldat. Première réaction qu'on pourrait avoir, c'est de dire, mais finalement, c'est normal. Il est entraîné, il est conditionné à obéir aveuglément à tout ordre, le plus stupide soit-il, et aussi à imposer sa force de loi sur ses subordonnés. J'ai vérifié ça en allant sur des forums. Ce que je vous dis là, c'est très gentil par rapport à tout ce que j'ai pu lire, tous les préjugés qu'il y a pour les autorités, soit militaires, de police, etc. C'est une réalité. Et donc, nous devons nous aussi, c'est toujours difficile de lire la Bible parce qu'on lit avec notre culture, avec tout ce que nous sommes. Et le Seigneur veut nous aider à vraiment aussi nous détacher de notre façon de penser, etc. Donc, pour vous, c'est peut-être pas un souci, mais je sais que, puisque justement c'est la question de l'autorité, la raison pour laquelle les personnes réagissent comme ça, c'est parce que c'est inimaginable qu'on suive bêtement un ordre aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose de très pratique, on le rencontre tous les jours. Et donc, pour prendre cet exemple comme un bel exemple, il faut qu'on se détache de cette idée. Ce centurion, il est un bon exemple, même en tant que militaire. Il n'est pas du tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et la preuve, d'ailleurs, est dans le texte. Pour qui il vient ? En fait, quand j'y ai pensé d'abord, je croyais que c'était pour sa fille, que c'était quelqu'un pour sa famille. Ça, c'était le fils, le chef de la synagogue. Il est venu pour sa fille ou son fils. Mais ce centurion, il est venu pour son serviteur. Peut-être c'était même son esclave. Et vous voyez comment il plaide. Il est épris de compassion par rapport à sa maladie. Il détaille ce qui ne va pas chez lui. Et il vient auprès de Jésus parce qu'il a compris que Jésus avait le pouvoir de le guérir. Et je crois que le centurion, il a pu exercer sa foi parce qu'il avait bien compris le principe de l'exercice de l'autorité. On a chacun une autorité à exercer et on a chacun une autorité à laquelle se soumettre. Et une fois que c'est bien défini, c'est mis en parole, c'est dit, exprimé, il est plus facile de s'y conformer, afin de ne pas mal l'exercer, afin de ne pas l'usurper. J'ai vraiment pensé que ça a quelque chose à voir avec notre identité en Christ. Il faut une fois de plus bien connaître notre identité, et ce rapport à l'autorité en fait partie, ou en découle, je dirais. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ce centurion ? Il a simplement suivi son raisonnement, puisqu'il a bien compris le principe de l'autorité, ben la foi, elle lui est venue naturellement. Ou plutôt, sa foi, c'est l'expression naturelle de ce qu'il avait compris. Parce qu'il a compris comment c'était pour lui. Il a réalisé le pouvoir de Jésus, ben, il lui a simplement demandé. D'ailleurs, l'évangile de Luc est encore plus extraordinaire. Le centurion, il ne l'a jamais vu dans l'évangile de Luc. Il a envoyé des gens chercher Jésus. Et pendant qu'ils arrivaient, ils étaient presque arrivés, c'est là qu'il envoie d'autres amis lui dire « Mais ne viens pas. Je ne suis pas digne que tu viennes, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » C'est encore plus extraordinaire. Il n'y a même pas eu, ils ne se sont pas vus de visu, en quelque sorte. Voilà. Et donc, chacun d'entre nous, on a besoin d'être au clair avec lui-même par rapport aux autorités au-dessus de lui et en dessous. D'accord ? Il faut que volontairement, je reconnaisse et me soumette à l'autorité au-dessus, supérieure, parce que je sais qu'elle est donnée par Dieu, et je la respecte donc, même quoi que j'en pense, même si elle peut être injuste des fois, parce que j'obéis à une autorité plus grande encore. Et je dois aussi reconnaître dans ma sphère d'influence l'autorité que j'ai et que je dois exercer en gardant bien en tête le but à atteindre et toujours suivre l'exemple de Christ. Et c'est vrai dans tous les domaines de la vie et c'est aussi vrai, bien sûr, et plus que jamais, dans l'Église. Enfin, je voudrais citer un dernier exemple, c'est l'exemple de Paul. Alors là aussi, on pourrait voir beaucoup de choses, mais juste deux exemples. C'est Onésime. C'est la lettre de Paul à Philémon, et il plaide pour Onésime, pour que cet esclave qui avait fui, qu'il le reprenne en tant que frère en Christ. Alors que Paul, c'est l'apôtre qui a toute autorité pour dire comment les choses doivent être, on voit qu'il n'impose rien à Philémon et il plaide avec douceur, avec tact, avec humilité, et il laisse à Philémon toute la liberté de décider de ce qu'il allait faire. Je parle de l'esclave Onésime, Paul veut renvoyer à Philémon. Oui. Donc c'est la lettre, je fais référence à la lettre de Paul à Philémon. Voilà un exemple comme ça que nous pouvons relire tranquillement. Et l'autre, je pense à la façon dont Paul a défendu son ministère à l'église de Corinthe, dans 2 Corinthiens 10 à 13, Paul prend plusieurs chapitres pour défendre son ministère, parce que les Corinthiens, l'église de Corinthe, c'est l'église dont il est le père spirituel. Il a enfanté, il a veillé, il y est allé plusieurs fois. Et malgré cela, les responsables là-bas, ils contestent son autorité d'apôtre de manière très très forte. Et Paul défend son ministère, il le fait de manière magnifique. On va pas rentrer dans le détail, mais je vais juste dire deux versets à la fin de son plaidoyer que j'affiche ici. C'est 2 Corinthiens 13, verset 8, qui sont deux grands principes d'exercice de l'autorité. Voici la conclusion à laquelle il arrive, 2 Corinthiens 13, verset 8, il va dire « Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. » Et là, il explique bien que tout pouvoir que nous avons, nous devons toujours l'utiliser pour le bien du prochain. Et les versets suivants, 2 Corinthiens 10, 8 et 13, verset 10, disent la même chose, il le répète, il dit « Le Seigneur nous a donné l'autorité pour construire votre communauté et non pas pour le détruire. » Et il le répète, il le dit au début de son plaidoyer et il le dit à la fin, en 10, chapitre 10, chapitre 13, chaque fois dans un contexte. Et c'est ça que nous voulons retenir, quelque autorité que nous avons, elle est toujours là pour construire, pour édifier ce que nous avons, nos dons. Le Seigneur nous les donne pour construire, édifier son Église ou les uns les autres. Voilà. Voilà tous ces exemples d'exercice. Et maintenant, je voudrais vous proposer quelques textes pour l'Église, l'exercice de l'autorité dans l'Église. Alors, qui détient l'autorité ? Alors, j'ai décidé que c'est une question facile. D'accord ? On a dit Dieu, qu'il a complètement transmis au Seigneur Jésus. À tout cela, on le sait par la Bible, qui est notre autorité. Ce soir, tout ce qu'on dit, on se base sur ce qu'elle dit et qui la donne à des responsables. Alors, je veux dire, dans l'Église, des pasteurs, des anciens, des docteurs, des prophètes. Je ne veux pas ce soir insister là-dessus. Et on peut même rester avec l'idée que c'est Jésus qui a toute autorité. Mais les deux choses que j'aimerais partager ce soir avec vous, c'est plutôt comment les responsables doivent exercer l'autorité qu'ils ont et comment nous devons nous soumettre à leur autorité ou à l'autorité établie dans l'Église. Je voudrais lire quelques textes pour illustrer ces deux points. Alors, premier grand texte, c'est Éphésiens 4, les 16 premiers versets. C'est un magnifique texte qui nous dit que Dieu a fait des dons à l'Église. Il est responsable, c'est des dons, c'est des personnes qu'il a donné en don à l'Église. Voilà vraiment pour moi le cœur de ce passage. Alors j'ai préparé quelques transparents, je vous lis quelques versets. Regardez comment il commence. « Voici ce que je vous demande avec force, moi qui suis le prisonnier pour le Seigneur. » Vous avez vu ? comment il se présente. L'apôtre, qui a toute autorité, il se présente comme le prisonnier du Seigneur. Donc il fait un jeu de mots parce qu'il est vraiment en prison, mais aussi parce qu'il est sous l'autorité du Seigneur Jésus. Voici, et puis il demande avec force, lui qui est sous l'autorité du Seigneur Jésus, vivez en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui. Soyez simples, doux et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. Et il continue ainsi. Et je saute au verset 7, je lis dans la parole de vie, sauf pour le verset 7, parce que j'aime ma vieille version seconde. Voilà. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. La parole de vie dit, Dieu nous a donné ses bienfaits, mais le Christ a mesuré à chacun sa part. Et cela nous rappelle le verset de dimanche de Corinthiens 9, verset 8. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance. La grâce a été donnée à chacun d'entre nous. Selon le don du Christ, c'est merveilleux. À nous de simplement le recevoir, louer Dieu pour cela. Et un peu plus loin, c'est un verset un peu mystérieux pour moi. Paul cite le psaume 68, le verset 19, où il est dit, quand il est monté en haut, très haut, il a emmené des prisonniers, il a fait des dons aux êtres humains. C'est un peu mystérieux, mais deux versets plus loin, enfin je vais pas m'étendre là-dessus, deux versets plus loin, il nous explique de quoi il s'agit. Nous lisons l'explication de ces dons. Voici les dons, donc c'est la référence qu'il a juste faite. Voici les dons que le Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle, c'est ce qu'on appelle les évangélistes. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, nous les appelons les pasteurs, ou encore d'enseigner, des enseignants, des docteurs. Vous voyez, ce qui est formidable ici, c'est que ces ministères essentiels de l'Église, ce sont des dons que le Seigneur Jésus a faits. Et pour les faire, c'est écrit plus haut, le Christ est d'abord descendu dans les régions les plus profondes avant de monter plus haut que tous les cieux pour remplir le monde entier. C'est l'œuvre de salut réalisé par le Christ qui nous donne ses dons. Et notez aussi qu'en fait, ce sont des personnes. Ce n'est pas seulement des ministères, c'est les personnes qui incarnent ces ministères. Et nous arrivons au verset 12 qui nous donne ce que j'appelle le secret de ses dons à l'Église. Par ses dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps du Christ. Nous n'allons pas discuter la nature de ces dons, la distinction entre les ministères, mais nous soulignons donc que ces dons, ce sont les personnes elles-mêmes, c'est les êtres humains que le Christ utilise pour former ceux qui appartiennent à Dieu. Et la conséquence, parce que les chrétiens sont formés par les dons que sont les apôtres, et les prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, ainsi ils peuvent accomplir leur service de chrétiens. Et c'est ainsi que tous contribuent à construire le corps du Christ. Et là, vous notez bien que l'accent ici n'est pas mis sur le ministère des responsables seulement pour édifier l'Église, l'accent est mis sur le service de chaque chrétien. C'est ça qui édifie l'Église, qui la construit. Donc c'est le rôle des responsables de rendre chaque chrétien capable d'accomplir son service. Alors priez pour vos responsables. Et c'est à cela que sert leur autorité. C'est pour ça que les responsables ont reçu de l'autorité, pour libérer les chrétiens pour qu'ils puissent faire leur service, pour être à leur place, pour équiper chaque chrétien, pour que tous ensemble, chacun et tous ensemble, on puisse contribuer à édifier le corps de Christ. Et le reste du passage, de ce passage, versets 13 à 16, c'est juste la conséquence. Voilà ce qui se passe si nous faisons cela. Alors tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. C'est tout le passage. Et je lis juste le dernier encore en disant « La vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. » Donc voilà le contour des dons. Les responsables, c'est des dons à l'Église. Alors comment ce responsable doit-il exercer cette autorité? Juste quelques versets. Acte 20, verset 28. C'est Paul qui s'adresse aux anciens d'Éphèse alors qu'il doit les quitter. C'est aussi des circonstances difficiles. Mais voilà ce qu'il leur dit. « Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi responsable pour être les pasteurs de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Vous voyez, l'Église, c'est celle de Dieu. Elle lui est infiniment précieuse. Il s'est acquise par son propre sang. Donc les responsables doivent être des pasteurs pour le troupeau. L'idée est mise sur le soin qu'il faut apporter, on va dire, à chaque brebis de ce troupeau. Le deuxième passage nous dit la même chose. 1 Pierre 5, les 5 premiers versets. L'apôtre Pierre exhorte les anciens qui sont en fonction dans l'Église. « Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui. Non par contrainte, mais de plein gré, selon Dieu. Non par cupidité, mais par dévouement. Non pas en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. » On trouve ici la même exhortation que celle de Paul. « Soyez les pasteurs du troupeau qui se trouve chez vous. » Et ensuite, il explique l'état d'esprit dans lequel il ne faut pas exercer l'autorité. Non par contrainte, non par cupidité, non en commandant en maître. Et ensuite, il explique comment, dans quel état d'esprit il faut veiller sur le troupeau, de plein gré, par dévouement, en devenant les modèles du troupeau qui vous a été confié. Ça me fait penser au Seigneur Jésus qui est notre modèle, qui a été le modèle de l'apôtre Pierre. Et vous voyez au verset 4, Jésus, notre modèle, c'est le chef des pasteurs. C'est lui notre récompense et il nous faut garder nos yeux sur lui. Regarder vers le moment où le chef des pasteurs se manifeste et préparer ce moment. Et ainsi, nous accomplirons notre service fidèlement. Donc ça, c'est pour le responsable. Et juste après, un quart de verset, je vous lis 5a, ça va jusqu'à D. De même, vous les jeunes, soyez soumis aux anciens. C'est simple, court, concis, il n'y a pas d'explication, pas d'exemple, c'est direct. Apprendre ou à laisser? Non, c'est apprendre tel quel. Parce qu'avec Dieu, c'est ce que nous avons dit, et si nous comprenons ce qu'est l'autorité, cet ordre n'est pas là pour nous écraser, mais elle nous permet de prendre notre place, d'avoir notre assurance auprès de Dieu. C'est merveilleux que Dieu ait toute autorité et qu'il prenne la peine de me prendre sous son autorité pour mon bien et les responsables qu'il met en place, à quel jobby, mes supérieurs, il les met en place pour moi. C'est, au contraire, je remercie le Seigneur pour toutes les autorités qui sont au-dessus de moi parce que c'est pour mon bien et je l'en bénis. On revient, maintenant les trois quarts restants, verset 5. « Et vous tous, les uns vers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais aux humbles, il accorde sa grâce. » En fait, je ne vais pas insister, dans tous les passages que nous avons lus, l'humilité, c'est la caractéristique du Seigneur Jésus, de l'apôtre Paul, de tous les bons exemples d'autorité exercés. Mais c'est essentiel. Si nous sommes dans l'orgueil, nous ne pouvons pas entendre Dieu. Et Dieu non plus, du coup. Voilà. Et donc, avec ce dernier verset, donc on est passé à la soumission à l'autorité de l'Église. Et je termine avec deux versets. Le premier, nous vous demandons, frères, de reconnaître ceux qui se donnent de la peine parmi vous, ceux qui dans le Seigneur vous dirigent et vous donnent des avertissements. Estimez-les infiniment avec amour en raison de leur travail. Vous voyez, le labeur des responsables est souligné, le mot travail, ceux qui se donnent de la peine pour vous, ils vous dirigent et vous donnent des avertissements, et c'est présenté ici comme quelque chose de positif. C'est pas une chance, c'est une grâce d'avoir quelqu'un qui nous avertit, qui nous donne des bons conseils, qui nous dit comment avancer. C'est si bien qu'il est demandé de les estimer infiniment, avec amour. Et le dernier verset, que j'aime beaucoup, parce que je crois que c'est juste, Hébreux 13, verset 17, « Faites confiance à ceux qui vous dirigent, et soyez leur soumis. En effet, ils sont là pour veiller sur vos âmes, ce dont ils auront à rendre compte. Ainsi, ils accompliront leurs tâches avec joie, sans avoir à se plaindre, ce qui ne vous serait d'aucun profit. » Je crois que c'est aussi la parole du Seigneur pour nous. C'est fondamental que dans notre église, ou n'importe quelle église, nous nous fassions confiance les uns et les autres. Et ici, c'est même présenté comme une demande de Dieu, faite par l'auteur de l'Épître, bien sûr. Faites confiance à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis. Et après, il y a encore un raisonnement qui dit, bah, finalement, c'est pour nous tous. Si vous rendez malheureux vos responsables, ils ne pourront pas bien exercer responsabilité, ils ne pourront pas bien diriger. Voilà, donc il y a une sorte de logique qui est présentée là. Voilà, alors j'ai dit que c'était le dernier verset, c'est vrai, mais pour m'arrêter, je remets le verset de dimanche qui nous dit que Dieu est assez puissant, en fait il est tout puissant, pour nous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toute chose et toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. Amen. D'accord. En fait, ce soir, je n'ai pas fait vraiment de distinction entre ancien et pasteur. Je crois que ce n'est pas la peine d'en faire. Le pasteur, j'ai utilisé ce mot particulièrement à cause de la nature de ce qu'il doit faire, c'est-à-dire veiller sur chacun. Après, il y a aussi des questions de mots. Donc le mot ancien, ce n'est pas le même que pasteur dans le Nouveau Testament. Et il fait aussi référence à celui qui a une charge de responsabilité de l'Église. Et quand on utilise le mot pasteur, c'est vraiment pour ce fait de prendre soin. Il y a plus cette idée dans le mot même. D'accord ? Mais sinon, on utilise souvent ce mot de manière interchangeable quand on parle de responsable. En fait, ce que j'ai dit, je pense que c'est vrai dans l'Église, en dehors de l'Église, c'est dans toute notre vie. On n'utilise pas nécessairement ce mot, surtout que ce n'est pas populaire de dire « je me soumets à l'autorité », on n'utilise jamais ce terme, d'accord, même dans les... Mais je crois que chacun d'entre nous est dans cette situation du centurion, il le dit très très bien, on a des autorités au-dessus de nous et on a des personnes pour lesquelles on exerce une autorité. Dans la famille, les enfants sont sous l'autorité des parents, c'est... Enfin, je prends un exemple simple. Et donc, nous avons tous un morceau d'autorité dans toutes sortes de sphères, et dans l'Église, évidemment. Pourquoi tu n'aurais pas de l'autorité dans l'Église? Alors, je retourne ma question, pourquoi pas? Pourquoi avec ce qu'on a dit, c'est moi qui l'ai dit, mais je pense l'avoir... J'essaie de le dire de ce que j'ai compris du Nouveau Testament. Je ne vais pas aller plus loin par rapport à quelle autorité, comment la définir. J'ai pas réfléchi à la question comme ça. Mais pour moi, comment quelqu'un devient responsable? C'est parce que il sert, il a des dons, il les exerce dans l'Église, et en les reconnaissant, il est appelé à les exercer. Peut-être c'est le rôle, il est dit que c'est le rôle des responsables, des anciens pasteurs, etc. Non, pas des anciens pasteurs, des apôtres, prophètes, évangélistes, etc. C'est à eux d'équiper pour que chacun puisse faire son service. Et donc aussi de découvrir, de permettre à chacun d'exercer ses dons pour eux-mêmes devenir responsables. Et c'est quelque chose qui me travaille d'ailleurs par rapport à notre Église. Comment aider chacun à prendre sa place, je vais dire plus de place, allez hop, plus de place, sa place pour servir le Seigneur. Donc pour moi, à ce niveau-là, je ne fais même pas de distinction entre hommes et femmes.
Pour répondre quand même de manière précise à Emmanuel, il est significatif que, au temps de Jésus-Christ, le témoignage des femmes n'était pas cru.
Oui.
Quand elles ont dit « on a vu le Seigneur », ils ne les crurent pas. Il suffit de relire la fin de l'évangile de Marc. Plusieurs fois, il est dit.
Même les disciples, non? Même les disciples au début ne les croient pas.
Ouais. Et pourtant, Jésus va donner un ordre à des femmes et va leur dire allez dire à mes frères que je les retrouverai. Ouais. Donc il a chargé des femmes, absolument, d'une mission particulière à, contrairement à la mentalité de l'époque. Donc je crois qu'il leur confie un ministère ponctuel peut-être, mais tout à fait réel et extraordinaire.
Absolument.
D'aller dire à ses propres apôtres que lui leur a donné un ordre. Donc je crois qu'on ne peut pas nier que pour Jésus, il n'y a pas tellement de différence. Un ordre, donner un homme ou un ordre, donner à une femme, c'est revêtir cette personne d'autorité, l'autorité de son autorité à lui.
Absolument. Ouais. Et je ne pensais pas dire autre chose.
C'est plus qu'il y a eu des exemples de femmes qui avaient autorité dans l'Ancien Testament. Mmh. Il y avait des prophétesses, des chefs d'État. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre autorité et autoritarisme. Et on ne saisit pas toujours où elle est cette limite. Je crois qu'on se soumet très volontiers à l'autorité, parce qu'elle se sent, elle est, comme tu l'as dit, nuancée par le service, par la douceur. Mais l'autoritarisme, plus. C'est un des critères, en fait. Quand il n'y a plus l'idée de service, ce n'est plus l'autorité. C'est l'autoritarisme.
Tout à fait.
Non, le mot n'est pas faux. Le despote. Jésus-Christ est décrit comme un despote. C'est celui qui a autorité. Nous, ça a pris un sens faussé. Le despotin, c'est le maître.
On ne peut plus l'utiliser comme ça, aujourd'hui. En tout cas, il est évident pour nous tous, et dans le Nouveau Testament, le Seigneur ne veut aucun autoritarisme. Il faut lutter contre. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin des uns des autres, pour nous le rappeler, si c'était une tendance de quelqu'un. Tout à fait. Oui, d'ailleurs, la fin de ce verset, « Et il vous élèvera. Voilà, cette main t'élèvera. Voilà. » Ouais, tout à fait. C'est la récompense du verset 4 de 1 Pierre 5.
Rehoboam n'avait pas compris.
Pardon ?
Rehoboam n'avait pas compris.
Oui, oui.
Au niveau de l'autorité.
C'est ça.
Il y a un danger quand même à revendiquer l'autorité de Christ, parce que Christ, il est mort il y a 2000 ans, et nous a laissé quelque chose. C'est que dit l'Écriture. Et ça, c'est un témoignage d'autorité permanent. Parce qu'il y a des religions qui reviennent à ce que Christ a dit, a bien voulu dire ou a essayé de dire. En fait, on a un document tout à fait objectif, pas facile à comprendre, je me conviens. Il peut y avoir des différences. Mais en fait, la question n'est pas que dit Christ, c'est que dit l'Écriture. Parce qu'il y a des paroles qui ne sont pas directement de Christ. Elles sont de Pierre, de Paul, de Jacques. Que dit l'Écriture ?
Les données par lui, parce qu'il leur a dit avant de quitter la terre, je vous donnerai des choses que vous ne pouvez pas encore recevoir maintenant. Donc tout ce qui nous est enseigné, c'est l'Esprit du Christ.
Oui, avec notre fondement, enfin, je pense que c'est un endroit où on le sait, c'est quand même les Écritures. C'est l'ensemble des Écritures. Et pas autre chose non plus. D'accord ? Donc bien sûr que le Saint-Esprit va nous diriger dans notre quotidien, mais ça restera dans le cadre. On ne s'attend pas, on ne va pas compléter la Bible ou avoir des nouvelles révélations par rapport à ça. Notre foi elle est basée sur la révélation reçue, même si là aussi on a la foi. C'est-à-dire c'est basé sur la foi qu'elles ont été transmises. Préservé par le Seigneur pour être authentique aujourd'hui. Nous croyons à toute la Bible. Voilà, on va s'arrêter là, puisqu'on aura l'occasion de continuer à échanger la semaine prochaine dans les groupes de mercredi.